France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Depuis l'apparition d'une bande dessinée sur le sujet en septembre 2024, bande dessinée intitulée « L'arnaque des nouveaux pères », le mythe justement des nouveaux pères est au cœur du débat. Ces pères qui, en apparence, sont très investis, mais qui, dans le partage équitable des tâches domestiques, sont aux abonnés absents. Mais alors, partant de cette actualité, de cette tendance, comment faire une histoire de la paternité? Qu'est-ce qu'être père au Moyen-Âge, dans la période moderne après la Seconde Guerre mondiale? La pluralité des façons d'être père a-t-elle toujours prévalu? Pour nous éclairer ce soir, une invitée, Emmanuelle Berthiaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne du genre, de l'enfance et de la médecine du 18e au 19e siècle. Vous êtes par ailleurs maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université de Picardie, Jules Verne. Et vous avez co-dirigé avec Isor Boitel cet ouvrage intitulé « Être père, une histoire plurielle de la paternité, 15e, 20e siècle ». C'est aux presses universitaires du Septentrion. Merci à vous d'être présente ce soir dans Question du soir.
Ce qu'on voit, c'est que les pères, ils sont quand même talentueux à mettre en scène le fait qu'ils s'investissent. Ça, c'est quand même un grand talent. Et quand je dis les pères, je peux m'impliquer là-dedans, hein, mais ils sont très forts là-dedans. Et du coup, dès qu'ils font la moindre chose, bah, de suite, ils reçoivent des félicitations de tout le monde. Et comme ils en font quand même globalement plus que leur propre père, comme on fait globalement plus que nos propres pères, bah forcément tout le monde trouve ça génial. Et on compare ce qui n'est pas vraiment comparable, on pourrait comparer à ce qui est fait dans le couple hétéro, plutôt que par rapport à ses propres parents. Et là, la différence, c'est évidemment pas la même. On voit qu'il y a un écart qui reste fort et que c'est souvent les mères qui font l'essentiel du boulot, des tâches ménagères, mais aussi des tâches s'occuper des enfants, quoi. Ça reste dominant.
La voix de Guillaume Dodin que l'on vient d'entendre, il était interrogé dans l'émission Zoom Zoom Zen sur France Inter. Il faut peut-être commencer par là, Emmanuelle Berthiaud. Qu'est-ce que c'est que ce terme-là, cette expression-là que l'on entend partout en ce moment, les nouveaux pères? Qui sont-ils et comment les définir?
Alors c'est un petit peu complexe, mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une expression, en tout cas les nouveaux pères, qu'on entend plus volontiers depuis les années 60-70, quand les évolutions familiales au niveau du couple ont effectivement donné un nouveau rôle au père. Mais c'est finalement voilà, une expression qu'on va retrouver aussi dans les années 80, qu'on va retrouver également mobilisée aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'effectivement il faut un petit peu à chaque fois réactualiser cette expression et voir ce qui se cache derrière, parce que c'est pas forcément la même chose effectivement selon les époques.
Vous l'avez dit, elle surgit cette notion dans les années 70-80. À un moment où le féminisme aborde directement, frontalement, justement, ces sujets de la paternité, à un moment où les écrits de Françoise Dolto se diffusent largement, c'est dans ce contexte-là que surgit la notion.
Oui, je pense que ce qui est justement, vous soulignez, est important, c'est que c'est aussi lié à la nouvelle place de l'enfant. C'est-à-dire que cet enfant qui va être désiré, investi par les deux parents, va effectivement avoir une nouvelle place dans la famille. Donc c'est aussi ça qui va créer l'évolution du rôle du père. Et puis c'est les revendications féministes en faveur d'une égalité homme-femme. Et en fait, on peut pas justement comprendre l'évolution des pères si on ne regarde pas également l'évolution du rôle des mères, puisque c'est l'un par rapport à l'autre qu'ils évoluent.
Alors c'est une notion paradoxale, par ailleurs ambivalente, hein, cette notion de nouveau père. On a commencé à l'entendre dans le son que l'on a entendu. D'un côté, c'est une bonne nouvelle, il faut s'en féliciter, que des pères s'attaquent même à la question de la parentalité, qu'ils s'investissent dans la question du suivi, de l'éducation, du soin donné aux enfants. Et dans le même temps, on réalise que ce n'est pas tout à fait vrai dans les faits. Je vous donne simplement deux chiffres. En France, en 1986, les femmes géraient 80% des activités parentales liées aux enfants. 25 ans plus tard, elles en géraient encore 71%. C'est un progrès tempéré, disons.
Oui, d'autant plus tempéré. Et ce qui est aussi très intéressant dans les dernières études, notamment là, qui s'intéressent aux tâches parentales dans les deux mois après la naissance, c'est que les pères ont l'impression d'en faire quasiment autant que les mères. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'il y a un décalage, mais aussi que parfois les pères eux-mêmes ne se rendent pas compte. Hein, ils sont à peu près 60%, je crois, affirmés à partager à part égale les tâches liées aux enfants. Donc il y a aussi une forme de déni, alors qui peut peut-être s'expliquer parce qu'objectivement, ils en font quand même beaucoup plus que leur propre père, mais qui révèle peut-être quelque chose de finalement plus positif que le déni, c'est la volonté d'être vraiment un partenaire, pas simplement un auxiliaire de la mère. C'est vraiment quand même maintenant cette idée qu'il faut être présent autant que la mère, elle s'est quand même pas mal diffusée.
Un mot donné par une psychanalyste dans le journal Le Monde, elle explique les hommes s'emparent des questions liées à la réussite scolaire des enfants et à l'initiation au monde extérieur, tandis qu'on laisse aux femmes l'ingratitude entre de la dimension charnelle de la vie familiale, du traitement des souillures et des déchets. C'est une répartition assez claire, assez genrée pour
très
le coup
genrée,
des,
oui, et pour
des
le,
tâches.
Et pour le coup très, très ancienne. Hein. Effectivement, c'est souvent des tâches qui vont être invisibles, peu valorisées, tout ce qui renvoie aussi à cette fameuse charge mentale hein, popularisée par la dessinatrice Emma en 2017 et qui effectivement au rapport à, voilà, aux déchets ou à des choses qui sont moins valorisables. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui s'ancre dans une histoire ancienne et qui n'a donc pas disparu.
On va évidemment faire l'histoire. Dernière question à propos du contemporain, Emmanuel Berthiaud. Est-ce que cette notion-là de nouveau père traverse les classes sociales ou c'est dans le fond très ciblé justement comme émergence et comme réalité, on l'aura compris, tempérée là encore?
Là, je crois qu'aussi, à la fois aujourd'hui comme autrefois, il y a vraiment une variété d'expériences paternelles et que selon les milieux sociaux, il y a effectivement des vécus qui sont très différents. Si les conditions matérielles des couples, le rapport au travail, le fait de pouvoir être aidé, etc. sont très variables, on comprend bien que le rôle des pères peut aussi être assez différent selon les milieux sociaux.
Je le disais, donc vous avez entrepris une histoire collective, hein, justement, de ce que c'est que cette notion-là, être père, cette notion-là de la paternité. Emmanuel Berthiaud, est-ce que c'est facile d'entreprendre cette histoire? Est-ce que les sources sont accessibles de qualité ou bien c'est un vrai parcours du combattant?
Alors, les sources sont très accessibles, mais on a justement eu tendance pendant longtemps à prendre les sources qui étaient les plus accessibles, c'est-à-dire celles qui tiennent à l'histoire du droit, par exemple, donc des sources juridiques, les sources judiciaires, des discours, finalement, des sources qui sont assez normatives, et à finalement ne pas forcément regarder, mais c'est aussi parce que le regard des historiens a changé, hein, maintenant on va voir dans les sources des choses peut-être qui ne nous intéressaient pas avant, mais on va s'intéresser à des sources qui vont au contraire mettre en évidence d'autres facettes de la paternité. Qui en fait, on se rend compte quand on les voit, ces sources, que ces facettes-là existent, que tout n'a pas été créé aujourd'hui. Mais voilà, donc effectivement, je pense qu'on a aussi un rapport aux sources aujourd'hui sur la paternité qui n'est pas le même qu'autrefois.
Je vous le dis très sincèrement, on a trouvé votre ouvrage, cet ouvrage collectif avec l'équipe de Questions du Soir, absolument passionnant et notamment parce qu'il s'attaque très vivement, très fortement à des mythes extrêmement ancrés. Le premier d'entre eux, c'est peut-être l'idée selon laquelle il existe un modèle paternel unique, ancien, figé. Dans le fond, quand on traverse cette histoire-là, on découvre qu'il existe autant de modèles à chaque époque donnée.
Oui, parce que finalement, et ça, on n'est pas les premières à le montrer, hein, Didier Lett l'a bien montré pour le Moyen-Âge en particulier, cette idée qu'il y a des pères attentifs, affectueux, à côté d'un discours qui valorise peut-être des pères plus autoritaires, c'est déjà une réalité. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on a essayé de montrer, des facettes un petit peu différentes, des pères pas simplement des élites, mais des catégories populaires, pas simplement des pères légitimes, mais aussi des pères illégitimes. Voilà, d'essayer de voir un petit peu des cas de figure différents pour montrer qu'on a voilà, des pluralités d'expériences et entre les archétypes, les idéaux et les vécus, il y a finalement toute une palette possible de paternité.
Deuxième mythe que vous avez tenté de briser, l'idée selon laquelle le pater familias existerait largement, serait répandu avant le 19e siècle. En fait, avant ce siècle-là, au 17e, au 18e siècle, on découvre des pères plutôt attentionnés, des pères plutôt attentifs, des pères plutôt portés justement vers la question de l'éducation des enfants.
Oui, même pas seulement d'ailleurs vers l'éducation des enfants, mais vers des domaines où on ne les attend pas du tout. Moi, ça a été le cas dans mes propres travaux de recherche où j'ai travaillé essentiellement dans ma thèse de doctorat sur la grossesse. Hein. Je pensais faire un sujet d'histoire des femmes. Je ne m'attendais pas à trouver autant les pères pendant
les pères
la,
sont
grossesse,
présents dans la grossesse,
à l'accouchement.
Absolument.
On n'attend pas les années 70-80 pour que des pères soient en salle de naissance. Et donc, j'ai été effectivement très étonnée de rencontrer cet investissement affectif et puis cet intérêt vraiment parfois très très complet, concret, hein, au maternage presque, ou en tout cas aux soins aux tout petits.
Alors prenons les choses dans l'ordre justement, faisons une histoire rapide dans le temps qui nous est imparti de cette paternité. Commençons par une définition dans le dictionnaire universel d'Antoine Furtière paru en 1690. Le père est brièvement défini, je cite, comme celui qui engendre un enfant mâle ou femelle. Jusque-là tout va bien. À quoi l'édition augmentée de 1727 ajoute, le nom du père est un nom vénérable, la nature et la loi lui donne une grande autorité. Il y a déjà au cœur de cette paternité, de la relation entre père et enfant, la notion fondamentale d'autorité.
Oui, et je trouve qu'elles sont intéressantes, ces deux définitions, parce qu'elles montrent bien justement des éléments qui sont restés longtemps importants dans la définition de la paternité. On retrouve l'idée quand même du lien biologique. Être un géniteur masculin, en tout cas en Occident, à l'époque moderne, c'est quelque chose d'important. Alors qu'à Rome, hein, je rappelle que voilà, la volonté seule du père comptait. Donc il y a quand même souvent l'idée d'un engendrement. Mais c'est aussi une réalité juridique. C'est-à-dire vraiment la paternité en Occident depuis le Moyen-Âge, c'est aussi lié au cadre du mariage. Ça implique une autorité, des droits particuliers sur l'enfant. C'est vraiment codifié par la loi. Mais ça implique aussi, de la part du père d'assumer des responsabilités envers l'enfant. C'est-à-dire que voilà, le père doit pourvoir aux besoins de l'enfant. Cette figure du père nourricier, protecteur, éducateur, c'est aussi des choses qui sont associées à l'autorité. Et puis, je pense que vous le disiez, cette idée d'une relation, je pense que c'est surtout ça l'élément clé de la définition
d'un
père. Le lien. Voilà, c'est une relation personnelle nouée avec l'enfant. Un lien particulier, alors c'est pas forcément toujours le même selon les époques, l'investissement est plus ou moins fort, mais en tout cas, voilà, c'est quand même ça qui fait à mon sens la définition.
Il y a une expression qui m'a marqué, dans l'Ancien Régime, écrivez-vous, la paternité est une valeur fondatrice et fédératrice. Pourquoi cette dualité de valeurs ?
Ben, je pense que c'est vraiment essentiel de voir que la paternité, c'est finalement un modèle un petit peu dans les relations sociales. Déjà, quelque part, la paternité, il y a une paternité supérieure, celle de Dieu, Dieu le Père, voilà, par rapport aux fidèles. Et donc, on a aussi après la monarchie qui reproduit quelque part cette relation un peu paternelle entre le roi et ses sujets. Et donc, finalement, le père dans sa famille, il reproduit aussi ça. Et donc, c'est effectivement un modèle extrêmement structurant, très fort, qui valorise évidemment beaucoup la paternité.
Au Moyen-Âge, on parle aussi de puissance maternelle. De quoi s'agit-il?
Alors, là aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a, chaque parent va avoir un peu des rôles particulièrement importants, mais que finalement, c'est ça qui est assez intéressant quand on se place sur ces époques parfois anciennes, c'est que cette notion de puissance et d'autorité, elle n'est pas forcément déclinée qu'au masculin, elle peut se décliner aussi au féminin. On voit des régentes extrêmement puissantes, des femmes aussi qui ont un rôle important. Donc, là aussi, finalement, parfois, les genres sont être forcément interchangeables, mais on a ce type de fonction qui peut aussi se décliner au masculin et au féminin.
À la Renaissance, Emmanuel Berthiaud, la paternité charnelle n'est pas seulement revalorisée, elle est désormais quasi exclusivement pensée dans le cadre du mariage chrétien. Comment s'opère justement cette bascule que vous décrivez là ?
Mais au Moyen-Âge est encore jugée très importante, ça ne disparaît pas après, mais la paternité spirituelle, c'est vraiment l'influence de l'Église fait que ça valorise l'aspect spirituel, c'est finalement quelque part Dieu derrière qui reste le vrai père. Mais on voit effectivement à partir de la Renaissance, tout de même ces liens charnels, c'est aussi le moment où le mariage va être valorisé et quelque part le père est celui qui a des enfants dans le cadre du mariage. Et donc cette paternité charnelle revalorisée va contribuer effectivement à donner un rôle important au père, ou en tout cas on va accentuer plus cette facette-là de l'identité paternelle.
Qu'est-ce que c'est ? C'est l'influence du droit romain qui innerve cette conception renouvelée de la paternité ?
Il y a à la fois ce rôle du droit effectivement romain, mais il y a aussi un nouveau regard sur le mariage, sur le couple, une nouvelle place aussi quelque part de l'enfant, qui va revaloriser aussi l'existence terrestre et donc cette forme de paternité plus charnelle.
Vous êtes spécialiste, notamment Emmanuel Berthiaud, du XVIIIe siècle. Que se passe-t-il dans la seconde moitié du XVIIIe siècle ? Et est-ce que la Révolution française joue en matière de paternité, en matière de conception et de rapport du lien qu'entretiennent un père et ses enfants, un père et son enfant ? Est-ce qu'il y a un renouvellement profond engendré par la Révolution?
Alors c'est vrai que moi j'ai été tout à fait intéressée dans mes travaux sur ce moment particulier effectivement des Lumières et en particulier de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui a un contexte, je le rappelle, marqué par un très grand intérêt, une très grande inquiétude pour la santé de l'enfant. Et je pense qu'on peut pas comprendre l'évolution du rôle des pères si on comprend pas justement que l'enfant va être au centre un petit peu des attentions. On craint la mortalité infantile, on s'intéresse aux soins à l'enfant, à l'éducation des enfants, on pense évidemment à Rousseau. Et on a aussi un couple qui va être davantage centré sur l'enfant. Je rappelle qu'en France, c'est le début aussi des premiers comportements contraceptifs. On commence à faire moins d'enfants. Les liens affectifs sont aussi valorisés dans la famille. L'enfant devient un peu le fruit de l'amour quelque part de ses parents. Et donc, c'est là où on voit justement certains de ces pères des élites qui s'inquiètent justement pendant la grossesse, l'accouchement, qui investissent leur paternité d'une manière un petit peu inédite. Et donc, ça m'a semblé un moment justement, un moment un peu particulier dans la figure paternelle. Et alors, quant à la Révolution, c'est un moment un petit peu contradictoire. C'est-à-dire qu'en fait, ça va marquer d'un côté quand même une forme de crise d'identité du père, puisque la fonction paternelle va tout de même... Il va y avoir des droits qui vont être perdus. On considère que, par exemple, la puissance paternelle disparaît. Les majeurs ne sont plus soumis complètement à leur père, qui ne peut plus les envoyer en prison ou les déshériter. Donc, il y a bien quand même une perte de fonction. Et il me semble que peut-être la fonction paternelle est moins essentielle à la masculinité qu'avant, peut-être. Mais en même temps, c'est... Des évolutions qu'on a repérées à l'époque des Lumières continuent tout de même de se poursuivre, notamment la figure du papa. Enfin voilà, on voit encore quand même au XIXe siècle, je pense à des gravures assez extraordinaires de Daumier où on voit un père assailli par sa progéniture qui tire le landau. Donc on a toujours cette paternité aussi très très proche qui continue d'exister. Donc là encore, entre le droit qui voilà, montre un peu une certaine évolution. Et puis la réalité de ce qui se passe dans les familles, il peut y avoir un décalage. Mais à mon sens, les évolutions sont progressives. Et c'est lié aussi à l'évolution économique et sociale, révolution industrielle, urbanisation, qui fait aussi que les pères vont être amenés peut-être à travailler davantage à l'extérieur que voilà, à la période précédente, qui va peut-être un peu créer, à mon sens, une certaine distance tout de même au quotidien et un moindre investissement peut-être dans l'éducation des tout-petits.
Je cite un autre extrait de cet ouvrage intitulé « Être père » qui vient de paraître aux éditions du Septentrion. « Pendant les Lumières, les pères sont présentés aux accouchements, sont sensibles, expriment leurs émotions. Philippe Ariès, un historien spécialiste de la paternité, a évoqué ce moment de la naissance de la famille moderne où les rôles deviennent plus resserrés. Les hommes semblent impressionné par les femmes et par l'accouchement, l'enfant devient un sujet principal. Au fond, on a le sentiment que la paternité se transforme à mesure que la conception même de la famille évolue.
Oui, et ça, je pense que c'est effectivement essentiel de voir qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent effectivement au moment de la naissance, au moment de la naissance de l'enfant, et surtout justement dans ces couples un peu plus resserrés, un peu plus intimes, où les pères vont justement s'intéresser à leur compagne et à l'arrivée quelque part de l'enfant qui devient une forme de rite de passage, mais en tout cas un moment quand même tout à fait important et qui parfois est un moment aussi justement de rééquilibrage dans les relations conjugales, un moment un petit peu révélateur, qui va réinstaurer un petit peu parfois un équilibre entre l'homme et la femme. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose que Philippe Ariès avait un petit peu senti.
Justement, on va écouter Philippe Ariès. Il était invité de France Culture des Chemins de la Connaissance. C'était en 2011. Un extrait, il parle de moments où la famille se crée autour de l'enfant et non plus seulement autour du père.
Comment d'abord cette grande transformation nous devient-elle sensible ?
Oui.
Elle nous devient sensible par des images qui sont extrêmement liées à la structure profonde du sentiment familial moderne. C'est les images de l'enfant et de l'école.
Oui.
Autrement dit, cette famille moderne, basée sur le sentiment et l'affectivité, est une famille qui va se construire autour de l'enfant. Alors que la famille ancienne était construite autour du père, cette famille moderne, pouvons-nous dire, va être construite autour de l'enfant de la mère. Si vous voulez, à l'ancienne souveraineté du père, on parle beaucoup de la mort du père, mais c'est pas au XXe siècle qu'elle s'est faite. Elle s'est faite très lentement à travers tout le XIXe siècle, à la fois très lentement et très vite. Le père est mort et il a été remplacé par un couple étrange, qui est le couple de la mère et de l'enfant.
J'ai trébuché, Emmanuel Berthiaud, les propos sont tenus en 1971 et rediffusés en 2011. Mais votre analyse ?
Oui, je pense qu'effectivement, Philippe Ariès, même si les historiens depuis ont un petit peu nuancé l'idée du couple moderne, tout n'est pas forcément au 18e, mais en tout cas, il met bien le doigt sur le rôle central qu'a joué justement cette place nouvelle de l'enfant, cette place nouvelle aussi donnée à la mère, qui reconfigure un petit peu les rôles familiaux, et qui montre bien effectivement qu'on a quelque chose autour du sentiment, et en tout cas une plus grande individualisation. C'est aussi ça qui change, hein, le rapport à l'enfant devient plus individualisé, et on voit des pères effectivement jouer un rôle un petit peu nouveau.
Comment se fait-il que le 19e siècle reconstruit en partie une paternité à distance, qui se tient à distance de l'enfant, des émotions, de ce rapport justement différent à un lien, plus proche qu'on avait senti et perçu bien avant cela?
Alors je pense que ça tient à des évolutions qui sont un petit peu plus anciennes et qui se mettent aussi en place dès la fin du XVIIIe siècle, qu'on peut appeler une naturalisation des normes de genre. C'est-à-dire qu'on le voit vraiment dans le discours médical, les caractéristiques du masculin et du féminin sont beaucoup plus arrimées, déduites de l'anatomie. L'anatomie devient une espèce de destin. On pense en gros que la nature ne fait rien en vain. Si la femme en gros a un utérus, des seins et des nerfs sensibles, c'est qu'elle est faite pour être mère. Elle doit rester dans un cadre domestique pour délivrer de l'affection. Mmh. Alors que l'homme grand, fort, etc., tourné vers l'extérieur, la sphère publique, etc., va accomplir plutôt des tâches productives. Et on voit bien comment ça valorise moins, déjà, effectivement, le paternage. Et puis, je pense que ça tient aussi à des modèles, justement, nouveaux qui se développent au 19e siècle, notamment d'éducation. Chez les garçons, quelque part, on voit que dans le nouveau modèle, un petit peu de masculinité, il y a cette idée de mettre à distance le féminin. Il va falloir quitter les jupes de sa mère vers 5-6 ans, on revêt le pantalon, et on va aller après, à l'école, au collège, à la caserne, au bordel, où on va être finalement qu'entre hommes. Et justement, être un homme, c'est se mettre mettre à distance des émotions, c'est se séparer des femmes et c'est construire son identité comme ça, en se faisant violence d'ailleurs souvent. Et donc ça crée aussi une forme de distance justement avec l'enfant quelque part.
On découvre aussi en lisant cet ouvrage collectif à quel point les grandes guerres du XXe siècle, hein, la première comme la seconde, ont transformé le rapport à la paternité. Je vous cite là encore, vous écrivez « Les sentiments entre père et enfant se sont renforcés. Ils ont du moins été rendus davantage visibles, en particulier lors d'événements tels que la Grande Guerre. Comme l'a effectivement démontré Manon Pignot, qu'on a reçu ici il y a quelques semaines, le conflit a permis, grâce aux échanges épistolaires entre les pères et leur progéniture, la révélation d'un sentiment paternel qu'elle juge inédit. » Fin de citation. Comment cette Première Guerre mondiale a renforcé justement ces liens entre père et enfant, et notamment, là, en l'occurrence, entre père et fils?
Oui, ça peut paraître très paradoxal, parce que finalement, les pères sont éloignés, et en plus, effectivement, pendant la guerre, les femmes vont assumer de nombreux rôles, finalement, leur absence, on peut visiblement se passer du père, les séparations sont très prolongées entre père et enfant, et pourtant, le fait qu'on ait des lettres échangées, et pas simplement de couple, mais finalement, les pères se mettent à écrire à leurs enfants, qui eux-mêmes écrivent à leur père.
Et donc, ils se confient.
Et bien, ils se confient, et donc, finalement, vont exprimer des choses qui ne s'exprimaient pas au quotidien. Il y a un côté performatif, finalement, qui fait que voilà, et ça moi je l'ai beaucoup travaillé aussi, j'ai beaucoup travaillé sur les correspondances, et c'est à la fois une chance pour l'historien parce qu'on a des traces, mais on voit bien que la distance, l'éloignement fait qu'on va être amené à se dire des choses que peut-être voilà, on ne dirait pas si on était proche. Donc quelque part pour la Première Guerre mondiale, ça se fait plutôt dans le sens d'un voilà, un sentiment paternel renforcé, alors que c'est plutôt le contraire.
C'est ça, c'est troublant, fascinant, parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est quasiment le processus inverse. Les pères sont silenciés, on les cette guerre, ce conflit court en France, mais un conflit tout de même, les enferme pratiquement dans le silence.
Oui, c'est ce que montre bien Camille Mahé justement dans notre livre, c'est que là, ces pères qui sont prisonniers pendant des années et qui, pour le coup, là, ne peuvent plus échanger, vont avoir beaucoup de difficultés souvent à retisser des liens quand ils vont revenir après la guerre avec des enfants qui les considèrent bien souvent comme des étrangers. Donc là, on a vraiment une paternité vraiment reconfigurée, mais cette fois-ci dans un sens différent de la Première Guerre mondiale.
Comment est-ce que l'après-guerre, là je parle de la Seconde Guerre mondiale, transforme aussi les données liées à l'accouchement, l'évolution de l'accouchement après guerre, quel est-il?
Alors là aussi,
du point de vue paternel, j'entends.
Ce qui me paraît tout à fait aussi significatif, c'est que y a vraiment une évolution qui va être tout à fait importante, c'est le passage à l'accouchement hospitalier. Parce que ce qui fait aussi que les pères, pendant très longtemps, assistaient aux accouchements, c'est qu'on accouchait à domicile. Or, il y a effectivement une mutation fondamentale. La bascule se fait vraiment en 1951. Je crois que c'est la majorité des accouchements qui se font à partir de là à l'hôpital. Et ça passe par une exclusion des pères. C'est-à-dire pendant plus d'une décennie, les pères ne sont pas autorisés à assister aux accouchements. Et donc, il y a une forme même d'infantilisation des pères, on ne sait pas très bien où les mettre, on le déresponsabilise finalement dès le départ vis-à-vis des tout-petits. Et donc ça crée une forme de distance en fait aussi avec ce monde de la naissance, ce monde du tout-petit.
Je vous en prie.
Ouais, je me permets, c'est que ce qui est intéressant, c'est que les futurs pères ont réclamé justement les relations hommes-femmes changeant. À partir des années 60-70, les pères ont milité, il n'y a pas que les féministes, mais aussi pour retourner en salle de naissance et être présents aussi aux côtés de leur épouse quand ils accouchent.
Qu'est-ce que ces évolutions de la paternité au XXe siècle en particulier doivent d'abord et avant tout au combat féministe? On a l'impression que l'un et l'autre sont inextricables.
Oui, et je pense que justement, c'est cette présence nouvelle des pères au moment de la naissance, elle est à la fois liée à ces mouvements féminins qui réclament, mais oui, que cette expérience de la parentalité, elle soit partagée. Hein. L'enfant, il est désiré à deux et donc il doit être finalement accueilli à deux. Mais voilà, les pères ont aussi été présents et partie prenante un petit peu dans certaines de ces démarches pour humaniser la naissance. Et puis, justement, c'est quelque chose aussi qui est lié à l'évolution de la parentalité. On veut accueillir l'enfant et donc, les pères ne veulent pas se priver aussi de ce moment un peu exceptionnel, qui est le moment de la naissance. Donc ils ont fait leur retour effectivement en salle de naissance.
Si je reviens à l'ultra contemporain, hein, le congé parental est discuté depuis 2024 suite à l'annonce en janvier 2024 par Emmanuel Macron d'un congé dit de naissance qui réduirait le congé parental mais serait mieux indemnisé. Comment l'historienne que vous êtes, hein, l'historienne qui a travaillé justement sur ces liens de paternité, tente d'aborder ce sujet-là, ce sujet de politique publique?
Je pense que, en tout cas, là, ça met le doigt sur quelque chose qui me paraît essentiel aujourd'hui pour comprendre pourquoi il y a toujours un déséquilibre important dans les couples en termes de tâches parentales ou domestiques. C'est pas que, d'ailleurs, la question du congé parental, mais du congé de paternité. Tant qu'on a un congé extrêmement réduit, alors même s'il a progressé, hein, on doit être à 28 jours aujourd'hui en France, mais c'est beaucoup moins que dans les pays scandinaves, tant qu'on laisse la mère seule, finalement, longtemps avec son enfant, voilà, les pères ne peuvent pas s'investir autant. Et je pense que là, c'est l'élément clé qui explique voilà, ce décalage finalement, le fait que l'arrivée de l'enfant est souvent ce qui dans le couple va créer une dissymétrie et faire que évidemment la mère va s'emparer davantage de des soins au tout petit. Donc je pense qu'il y a vraiment effectivement un enjeu à mon avis à réfléchir à un allongement et à un partage de ce congé de parentalité ou de paternité pour justement faire en sorte que dès le départ voilà les pères soient plus présents.
Merci beaucoup Emmanuel Berthiaud de ces explications lumineuses de cet ouvrage aussi hein, dont je rappelle le titre Être père, une histoire plurielle de la paternité 15e-20e siècle. C'est un ouvrage qui est apparu aux presses universitaires du Septentrion. On le redit, il est absolument passionnant. Merci d'être venu ce soir dans Questions du soir.
Merci.